Bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous retrouver et de vous voir aussi nombreux. C'est bien si on est de plus en plus nombreux semaine après semaine. Vous allez voir, bientôt, on va nous faire changer de salle. On a vu un peu le même problème il y a 2 ans. On avait commencé dans une petite salle et puis on nous a mis dans une salle plus grande. Vous allez bien? Ça va, en forme? Et là, on s'est vu ce matin pour le cours des mots depuis 8 heures. On est au taquet, là. Bon appétit. Sur des sandwichs, c'est vrai qu'on voit sur des sandwichs ceux qui mangent équilibré, qu'on est dessert et tout ça. Est-ce que tout le monde a le plan de lecture? J'en ai encore, je vais circuler. Ceux qui n'ont pas, servez-vous, faites passer. Donc pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, la semaine dernière on a fait une introduction générale. On a regardé grosso modo l'histoire de la Bible en partant d'aujourd'hui, de nos traductions récentes du 20e et 21e siècle. Et puis on est remonté tranquillement au fil des siècles, à l'époque des premières traductions françaises, à l'époque des premières Bibles complètes en hébreu, en grec, à l'époque des plus anciens manuscrits bibliques, fragmentaires hélas... avec les siècles, et puis on a discuté même de la façon dont les livres de la Bible eux-mêmes avaient été rédigés, mais alors vraiment c'était en quelques minutes, évidemment, vous imaginez bien que ça prendrait plus de temps. Toujours est-il que maintenant la Bible est constituée, c'était juste une façon de dire que finalement ce livre que nous avons entre les mains, qui est petit, qui est compact, que vous avez peut-être dans votre téléphone d'ailleurs, tellement on peut aujourd'hui miniaturiser la Bible, il y a plein de versions de la Bible dans votre téléphone, vous voyez que tout ça finalement, aujourd'hui on considère que c'est un livre, c'est juste pour vous dire que l'histoire est très longue en réalité, une histoire longue, une histoire complexe, passionnante évidemment, et que les livres eux-mêmes... Surtout, ce qui est important, c'est de comprendre que les livres ont circulé indépendamment avant d'être rassemblés. Nous, on pense à la Bible comme étant un seul livre. Évidemment, c'est une collection de livres qui ont été regroupés. Alors, le regroupement n'est pas toujours, il n'est pas toujours fortuit. Souvent, il est réfléchi, il est raisonné. Vous allez même voir qu'on prend soin, quand on met des livres bout à bout, de faire le lien, de faire le joint. On a des points de couture pour comme ça associer un livre, passer de l'un à l'autre. Alors parfois de façon plus ou moins maladroite, vous voyez, tout le monde n'est pas toujours très expérimenté, les scribes ne sont pas toujours aguerris, mais on voit comme ça comment les textes se sont formés. Alors, et donc la règle du jeu, c'est qu'on fait ce commentaire chaque semaine, un commentaire rapide, puisque le but c'est de faire toute la Bible sur l'année. Alors quand je dis la Bible, j'ai bien précisé, je prends les livres qui sont communs à toutes les Bibles, y compris la Bible juive. Donc il y a 24 livres, ça correspond, si vous voulez, à l'Ancien Testament, ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, et pas nécessairement non plus l'Ancien Testament de tous les chrétiens, puisque les différentes branches du christianisme n'ont pas exactement la même composition. On a décidé ou non de mettre tel ou tel livre dans la Bible. Ça, c'est un choix qui a été fait parfois tardivement. On disait, par exemple, pour l'Église catholique romaine, la décision officielle de fixer la liste des livres qui sont dans la Bible, elle date du Concile de Trente au XVIe siècle de notre ère. Donc, vous voyez, c'est quand même assez récent quand on y réfléchit. Tout le monde se dit, la Bible, c'est il y a 3000 ans. En fait, XVIe siècle, si vous voulez avoir la liste exacte des livres qui sont dans les Bibles catholiques. Si vous avez une Bible protestante récente, comme la Bible Second, la Nouvelle Bible Second, ou la Bible du Semeur, etc., vous n'aurez pas les livres deutérocanoniques, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'Ancien Testament catholique, et vous ne les aurez pas. Si vous avez une Bible protestante un peu plus ancienne, Osterwald, etc., vous aurez ces livres deutérocanoniques dedans. Et donc, nous lisons, nous suivons l'ordre de lecture traditionnel de la Bible hébraïque, donc vous avez le petit calendrier. Je vous donne un titre indicatif des petites lectures quotidiennes, c'est ce qui vous permet de lire comme ça un quart d'heure par jour. Il faut prendre l'habitude, c'est comme quand on se brosse les dents, qu'on prend sa douche, tout ça. Vous pouvez lire un petit peu votre Bible, c'est plus facile à digérer que de devoir d'un seul coup lire un livre en entier, ça peut être un peu lourd. Donc, mais cela dit, libre à vous, hein. Vous n'êtes pas, je ne vais pas vous fliquer, de toute façon en plus c'est complètement hors cursus, vous le faites pas, voilà, moi je ne suis pas là pour... c'est votre vie après. Mais disons que si vous ne lisez pas la Bible... Vous allez voir qu'on va aller très vite dans le commentaire et vous allez être perdu. Très vite, vous serez perdu. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est donc de lire régulièrement les textes bibliques. Comme ça, vous comprendrez. Éventuellement, si vous avez des petites questions, vous les notez. Moi, je vais déjà faire un commentaire global et puis pendant une heure à peu près jusqu'à une heure et demie. Et puis après ça, je suis disponible. On peut continuer avec ceux qui veulent. On peut papoter pendant 15-20 minutes supplémentaires. Pas trop après, puisque moi, j'ai le cours et peut-être vous aussi. Et puis ceux qui doivent y aller, bien sûr, vous filez. Alors, donc, n'hésitez pas, s'il manque des petits guides de lecture, moi je le plie en trois, ça me sert de marque-page, vous voyez. Comme ça, je sais où j'en suis dans ma lecture. S'il en manque, on pourra en refaire. Bon, pas tout de suite, parce que là, on met tout à l'heure à la pause. Allez-y, entrez, il y a de la place. Il y a encore des places ici, et puis là-bas, sur les côtés, etc. Bon, alors c'est bien, avec une chance, on va rentrer là-bas. Alors, on attaque aujourd'hui la Genèse. Le livre de la Genèse. Ah oui, également, si vous voulez accompagner la lecture de votre Bible, par d'autres lectures, je peux vous recommander, d'une part, il y a des Bibles qui ont des introductions, en général, si vous avez une Bible... bon, moi, la mienne, par exemple, j'ai une petite Bible compacte dans laquelle il n'y a absolument rien. Aucune note, aucune introduction, mais la plupart des Bibles, vous avez une petite introduction, on vous donne le titre du livre, on vous donne un petit plan, etc., etc. Sinon, vous avez des livres d'introduction à la Bible. Par exemple, aux éditions du Cerf, vous avez un livre qui s'appelle « Pour lire l'Ancien Testament ». Qui est sympa, qui vous donne un petit cas général, on vous met des cartes, des actes chronologiques, etc. Un peu ce que j'ai fait la semaine dernière, j'ai tenté de dessiner au tableau, mais je ne suis pas géographe, donc j'ai pas le coup d'œil pour dessiner au tableau les cartes. Sinon, vous avez le manuel de cours, qui est l'introduction à l'Ancien Testament, édité par Thomas Römer et autres. Bon, évidemment, qui est très gros, et là, vous avez un chapitre sur chaque livre. Si vous lisez ça, c'est très bien, vous saurez plein de choses. Voilà, donc je vous recommande la lecture de tout ça. Alors, la Genèse. Donc, le mot Genèse en français n'est pas le mot en hébreu. Le titre hébreu de ce livre, c'est Bereshit. En fait, c'est le premier mot du livre. On s'embête pas, hein. Voilà, comment on l'appelle, Bereshit? Pourquoi? Parce que ça commence par Bereshit. Le mot français Genèse vient du grec. C'est le mot donné par les Grecs. Et la Genèse, ça veut dire le commencement. Alors, ça tombe bien, vous me direz, le premier livre de la Bible, qui s'appelle le commencement, on commence par le commencement. Effectivement, c'est une bonne idée. C'est pas très éloigné du titre hébreu, Bereshit, qui est le premier mot, qui veut dire justement au commencement, ou en tête, si vous voulez. Parce que Reshit, ça vient de Roche, qui est la tête. Ce qu'on met en tête, c'est ce qu'on met au début. Vous avez un en tête, si vous avez du papier, on dit du papier en tête, etc. Donc, en hébreu comme en grec, ça commence par le commencement, et donc c'est un titre particulièrement bien choisi pour ce livre qui a été placé en tête de la Bible. Et il y a des raisons pour le mettre en tête de la Bible, puisque précisément, le livre de la Genèse nous parle du commencement. Alors, le commencement de quoi, allez-vous me dire? Eh bien, le commencement de tout. Le commencement de l'univers, du monde, donc on va voir ce qu'on appelle la cosmogenèse, c'est-à-dire la création de l'univers, mais également la création, évidemment, la création de l'être humain. Et puis, petit à petit, on va avoir aussi le commencement de la révélation divine, on va avoir le commencement du mal, également, du péché en tout cas, le commencement du salut, le commencement de l'Alliance et le commencement du peuple d'Israël. Donc, évidemment, c'est un livre clé qui pose les bases. Alors, c'est pas parce que c'est un livre qui dit le commencement qu'il a été fait en premier. En réalité, c'est peut-être un livre, pour certaines sections, qui sont peut-être même à la fin, rédigées peut-être en dernier ou assez tardivement. Si vous rédigez je ne sais pas, si vous faites une dissertation, en général, vous travaillez d'abord au contenu de votre dissertation, vous faites vos parties, et une fois que tout est fini, vous rédigez une belle introduction. Et quand vous rédigez l'introduction, vous savez déjà ce que vous allez dire après. Donc parfois, ce qui est en tête n'est pas forcément ce qui est écrit en premier. C'est parfois même ce qui est écrit en dernier. Et si vous écrivez un livre, si vous publiez un livre, eh bien, effectivement, de la même manière, on écrit les différents chapitres de son livre, etc. Et puis, bon. Donc, en l'occurrence, le premier chapitre de la Genèse pourrait être assez tardif. Alors, le plan de la Genèse, vous avez, on pourrait dire deux parties majeures. On va avoir une partie qui va s'intéresser à la création de l'univers, de l'humanité, et qui va rester très généraliste, disons très universelle. On va rester un caractère très universel, et tout ça, ça va être les 10 premiers chapitres jusqu'au chapitre 11 à peu près. Et puis d'un seul coup, on va basculer de l'universel au personnel. À partir de la fin du chapitre 11 et du chapitre 12, on va s'intéresser à un individu. Et là, on va suivre l'histoire vraiment d'un individu. On le fait un petit peu avant, mais voilà, il y a plusieurs individus, et puis on reste... et ce personnage, ce sera Abraham, évidemment. Donc, personnage clé, l'ancêtre par excellence, le père des croyants. Et on va voir l'histoire d'Abraham, et ensuite de sa postérité. Abraham, Isaac, Jacob... les trois générations des patriarches, et puis Joseph,
qui est la quatrième génération. Et on va s'arrêter avec Joseph à la fin du livre de la Genèse. Donc on part avec Abraham qui est tout seul, et Dieu va lui faire une promesse en disant, voilà, je vais faire de toi une grande nation, mais pour l'instant il est tout seul. Et à la fin, effectivement, à la fin de la Genèse, ça y est, il y a effectivement un peuple, nombreux. Donc c'est plus ou moins l'aboutissement de la promesse, sauf que comme vous allez le voir, à la fin de la Genèse, on n'y est pas encore tout à fait, puisque le peuple n'est pas encore établi en terre promise. Il sera en Égypte. Et il faudra passer au livre de l'Exode pour avoir la suite de l'histoire. Mais on n'y est pas. Donc ce sont deux parties de taille inégale. Hein. On a 11 chapitres d'un côté, et puis ça risque le chapitre 50, vous voyez, chapitre 12 à 50 de l'autre. Et même quand vous regardez la deuxième section des chapitres 12 à 50, vous voyez que les parties sont assez inégales. On passe beaucoup de temps sur Abraham, peu de temps sur Isaac et Jacob, et beaucoup de temps sur Joseph. Donc il y a quand même deux personnages qui ressortent beaucoup, Abraham et Joseph. Les autres patriarches, on s'en occupe aussi un peu, mais on y consacre un peu moins de temps. De la même manière, vous verrez qu'il y a un certain nombre de doublés, c'est-à-dire d'histoires qu'on retrouve à plusieurs reprises. Alors pourquoi est-ce qu'on les retrouve à plusieurs reprises ? Je crois que j'en avais parlé, j'avais donné un exemple brièvement la semaine dernière, en donnant l'exemple de deux psaumes, de tête 14 et 53, quelque chose comme ça, qui sont des doublons, parce que doublons, ça fait vraiment, c'est péjoratif, non ? Bon, bref. C'était une question de français, après. On dit deux psaumes identiques, on dit c'est quand même bizarre, on a 150 psaumes, pourquoi s'embêter à mettre deux fois le même ? Et j'avais expliqué, en fait, que certainement le même psaume, qui était peut-être d'ailleurs connu oralement avant d'être mis par écrit, parce que, rappelez-vous, un psaume, c'est une chanson, on n'est pas obligé de l'écrire, on la mémorise facilement, avait dû circuler dans des milieux différents. Certains appelaient Dieu Yahvé, d'autres appelaient Dieu Elohim, c'est des termes hébreux, on n'a pas beaucoup le temps d'expliquer le sens de chacun de ces termes, mais disons, c'est des noms. Il y en a un qui l'appelait Yahvé, d'autres Elohim. Et donc, chacun a constitué son propre recueil de psaumes, et ces deux recueils de psaumes, à un moment donné, ont été rassemblés au sein du même livre de psaumes qui compte à lui-même plusieurs. Et donc, du coup, on n'a pas fait le tri. On aurait pu faire le tri en disant, bon, bah là, on en profite. Nous, on essaie de faire ça. Vous voyez, on a réuni les deux bibliothèques de théologie, bibliothèque de théologie protestante et bibliothèque de théologie catholique, qui n'en forment plus qu'une seule bibliothèque. Et du coup, effectivement, il y a des livres qui sont en double, puisqu'on les avait achetés des deux côtés. Et là, notre belle équipe de bibliothécaires essaye de mettre un peu de cohérence dans tout ça et de dire, bon, peut-être pas la peine d'avoir trois ou quatre exemplaires du même livre. Bon, pour certains, c'est bien. Hein. Il y a des livres qui sont vraiment bien et c'est bien qu'on en ait deux, trois. Mais bref. Donc du coup, on peut se retrouver comme ça dans la Bible avec deux fois le même psaume ou deux fois la même histoire. L'idée d'une histoire qui se produit, oui, d'accord, on voit bien, il y a une tradition peut-être orale d'abord qui se développe, on la raconte dans certains milieux, on la raconte dans d'autres milieux, on l'enrichit, évidemment, vous savez, c'est comme toutes les histoires, on ajoute des détails, etc. Mais effectivement, si l'histoire qui a une base commune, si ça bifurque à un moment donné, ça veut dire que dans chaque milieu, on va ajouter des détails, mais qui ne seront pas forcément les mêmes, et finalement, on les met par écrit, et finalement, on se retrouve avec deux fois la même histoire, à peu de choses près, avec des détails qui changent quand même, mais la morale, entre guillemets, de l'histoire, le message, si vous voulez, théologique de l'histoire est le même. Donc ça, on va retrouver comme ça, mais en même temps, et à chaque fois, vous allez voir que ça se complète assez bien. Ça ne fait pas non plus de double emploi, ce n'est pas choquant. On ne se dit pas, mais attendez, j'ai lu exactement la même chose, pourquoi on m'embête à me redire la même chose ? Alors par exemple, le tout début de la Genèse raconte la création du monde. Et vous avez finalement deux récits de création du monde, là encore avec des titres différents pour désigner Dieu. Au chapitre 1er, on l'appelle Elohim. Et puis au chapitre 2, on va l'appeler Yahvé Elohim. Donc on a gardé Elohim, on ajoute Yahvé. Donc on voit un petit peu des milieux différents. Alors, ici on ne va pas traiter de la question des sources de rédaction du Pentateuque. Vous avez un cours pour ça exprès ici. Mon collègue, Yann Houston, je pense qu'il fait ce cours, peut-être, à moins qu'il se fasse remplacer cette année. C'est un cours de deuxième année, est-ce que vous savez ? C'est ça, voilà. Donc il se fait remplacer cette année. Bref, vous aurez un cours sur le Pentateuque, et on va vous expliquer, Yaviste, Éloïste, Deutéronomiste, Sacerdotal, etc. On va vous expliquer tout ça. Je passe sur les détails. Mais c'est juste pour vous dire que, finalement, au chapitre 1 et 2 de la Genèse, vous avez deux récits de la création qui sont différents et qui se complètent. Le premier, le chapitre premier, est le récit peut-être le plus connu, effectivement, le plus complet. C'est peut-être pour ça qu'on l'a mis en tête, comme je disais, peut-être qu'on écrit en dernier, on dit voilà, ça y est, on essaie d'être assez exhaustif. On appelle Dieu Elohim. Alors je m'arrête quand même sur le nom. Elohim, ça veut dire, c'est du pluriel, et c'est une pluriel d'une forme augmentée de Dieu. Elle, c'est Dieu. Donc Elohim, c'est, on pourrait dire, c'est les grands dieux. Les grands dieux, c'est de grandeur, c'est une forme augmentée, et c'est du pluriel. Donc au commencement, Elohim, les grands dieux, créa. Et là, le verbe est au singulier. Alors il faut savoir, c'est du pluriel ou c'est du singulier ? La réponse, les deux, mon capitaine. C'est du pluriel, parce qu'effectivement, Elohim vient du pluriel. Mais en même temps, le verbe est au singulier, parce qu'on se rend compte que finalement, ces Elohim, là, ce Elohim au pluriel, finalement, il y a une pluralité, il y a en même temps une unité, une unicité. Alors c'est un phénomène qu'on observe au Proche-Orient ancien. Je devrais faire toute une conférence sur le monothéisme. Vous allez faire un tour en Égypte, vous allez voir du côté de Amenophis IV, Akhenaton, qui d'un seul coup décide de concentrer toute la religion autour d'une même divinité qui absorbe les autres divinités. Du côté de la Mésopotamie, pareil, si vous lisez des récits comme les Numa Elish et des choses comme ça, on vous raconte que tous les dieux, pour combattre l'ennemi, etc., sont obligés d'unir leur pouvoir, parce que chaque dieu est incapable par lui-même de vaincre l'ennemi. Donc, hop, d'un seul coup, on vient combiner tous les pouvoirs en un seul dieu. Alors, ce dieu, c'est Ashur, dans la version assyrienne de ce texte, dans la version babylonienne, dans la version néo-babylonienne, c'est Marduk, le dieu de Marduk, qui est le dieu tutélaire de la ville de Babylone. Et donc, ce dieu Marduk, d'un seul coup, il est investi de tous les pouvoirs de tous les autres dieux. Et d'ailleurs, à la fin, on a les 50 noms, dans la version finale de l'Enumalish, on a les 50 noms de Marduk. Il a 50 noms, et en fait, à lui tout seul, il a tous les titres divins, tous les pouvoirs divins. Souvent, les divinités étaient associées à un pouvoir en particulier. Vous avez un dieu pour le soleil, un dieu pour la lune, un dieu pour ceci, un dieu pour cela, etc., etc. Et là, en fait, on dit, mais tout ceci, finalement, est combiné, fusionné en un seul dieu, qui regroupe tout à lui tout seul. Eh bien, c'est exactement ce que vous avez ici au chapitre 1er de la Genèse. On vous dit, d'accord, il y a plusieurs dieux, Elohim, mais en même temps, ces dieux, en fait, finalement, n'en font qu'un. Et d'ailleurs, ce dieu crée toutes choses. Et vous allez voir, il crée le jour, il crée la nuit, il crée le ciel, il crée les luminaires, voyez, verset 16, il crée le soleil et la lune, il crée les animaux, etc., etc. Donc, dans un contexte où, dans les autres civilisations, une divinité est associée à un élément, un astre, mais les divinités sont souvent une représentation animale, il va y avoir un dieu taureau, il va y avoir un dieu faucon, etc., etc. Bref, eh bien là, on dit non. Finalement, toutes ces choses-là, elles ont été créées par Elohim. Et Elohim, c'est du pluriel, et en même temps, il est tout seul. Au verset 26, Elohim dit « Faisons les humains à notre image ». Et là, on retrouve le pluriel. Donc, vous voyez, quand je dis c'est du singulier, c'est du pluriel en même temps. Il y a quand même l'idée, on est quand même plusieurs. On est plusieurs, mais on ne fait qu'un. Alors vous imaginez, dans un tel contexte, ce ne sera pas très difficile pour les chrétiens de développer la doctrine de la Trinité. Là, on n'est pas dans un texte chrétien du tout, hein, on est dans la Genèse. Ça a été écrit plusieurs siècles avant notre ère, donc ce n'est pas chrétien du tout. Mais la relecture chrétienne, une fois que le christianisme sera né, ce ne sera pas difficile de lire ces textes-là, et de dire, mais oui, nous, on n'a pas de problème avec cette idée-là, puisque précisément, finalement, d'accord, Dieu, il n'y a qu'une seule essence divine, une seule nature divine, mais en même temps, il y a trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Donc, on retrouve cette idée-là, ici, dès les premiers versets de la Genèse. Alors, la particularité de ce chapitre, c'est qu'il y a un ordre de création. On crée les choses dans un ordre particulier. Et c'est rythmé, donc c'est poétique. On est dans un texte poétique. Vous voyez, il y a le rythme. Il y eut un soir, il y eut un matin, etc. Premier jour, il y eut. Donc il y a un refrain. Vous voyez, on dit une chose, refrain. Une autre chose, refrain. Comme alternance, couplet, refrain, couplet, refrain. Donc on est dans un registre poétique. Donc par pitié, ne venez pas lire ça comme un manuel de géologie, de biologie, d'astrophysique ou je ne sais pas quoi. D'accord ? Enfin, je veux dire, j'en ai eu des manuels. Dans une vie antérieure, j'ai fait des sciences dures, j'ai fait de la physique, de la chimie, des mathématiques, etc., etc., de la biologie. Je suis fan des sciences dures. Ça n'est pas un récit et un manuel de sciences dures. C'est un texte poétique. Et la visée théologique de ce texte, c'est de dire, finalement, tout ce qui a été créé par Elohim. Et ce n'est pas plusieurs dieux qui ont chacun créé une chose. En fait, l'un fait ceci, l'autre fait cela. Il n'y a qu'un seul dieu, mais qui est à la fois pluriel, et qui peut donc tout faire d'un coup. Alors, il y a évidemment des aspects polémiques, oui, si tu veux, pourquoi pas, en tout cas de dialogue. On en parlait hier, parce qu'on va avoir les journées interdisciplinaires, et on discutait ce qu'il faut parler de... Voilà, le mot dialogue sonne mieux aujourd'hui, c'est politiquement correct de parler... Parce que si tu parles de conflit ou de polémique, de dialogue. Effectivement, on est en dialogue avec les autres religions de l'époque. Peut-être en conflit, effectivement, et en polémique, et avec une polémique, ouais, t'as raison. Mais... alors évidemment, les gens regardent l'ordre dans lequel les choses sont créées. C'est-à-dire, regardez, ça suit, c'est formidable, ça correspond aux théories scientifiques actuelles. Bon, en fait, pas vraiment, parce que si vous regardez, par exemple, les astres sont créés le quatrième jour, le soleil et la lune, etc., et les étoiles, c'est créé le quatrième jour, alors qu'entre-temps, il a déjà créé la terre et la mer et la verdure, les arbres et fruitiers, etc., etc. Donc, non, par pitié, il y a des gens qui cherchent à tous les coups à... Vous savez, c'est comme les gamins qui essaient de faire rentrer des ronds dans des carrés, là. On essaie de dire, si, il y a des gens qui veulent absolument avoir une sorte de fiabilité scientifique de ce récit, en disant, si, regardez, c'est formidable, il y a 3000 ans déjà, la Bible expliquait déjà l'ordre précis dans lequel la Terre a été, enfin, le ciel et la Terre ont été créés, etc. C'est pas le but de ce chapitre. Ce chapitre, il est très riche, il nous apprend plein de choses, mais il nous apprend pas ça. C'est pas le but. Il ne cherche pas à nous apprendre ça. Donc, ce qui nous apprend... Et pourquoi est-ce qu'il y a un ordre ? Oui, mais quand même, il y a un ordre. Premier, deuxième, troisième, quatrième jour. Pourquoi il y a un ordre ? Parce que c'est la semaine, précisément. Parce qu'il fait tout en six jours et que le septième jour, il se repose. Et même ce regroupement est un petit peu artificiel. Parce que si vous regardez, il y a des jours où il crée plusieurs choses. Vous voyez, par exemple, le troisième jour... il crée la terre, donc la terre ferme, si vous voulez, il fait apparaître la terre ferme, etc., etc. Et à ce moment-là, il crée les arbres, etc., etc. Donc si vous regardez le nombre de paroles créatrices de Dieu, en fait, il y en a plusieurs. Alors selon comment vous calculez les choses, vous en avez une dizaine, grosso modo. Ça dépend plus ou moins, etc. Mais vous pouvez avoir donc en toute logique, on pourrait imaginer qu'il y ait 10 étapes de création, donc 10 jours. Une dizaine de jours. Or, tout est fait en 6 jours. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, c'est un choix du rédacteur de dire, bon, certains jours, on va créer deux choses, comme ça, on va tomber sur six. Parce que comme ça, ça fait que le septième jour, Dieu se repose. Et c'est le modèle. C'est-à-dire que c'est très important. Ça veut dire que dès le premier chapitre de la Bible, on vous donne un modèle, un exemple à suivre. Il dit, voilà, Dieu lui-même a travaillé six jours, et le septième jour, il s'est reposé. Donc si Dieu fait ça, qui sommes-nous pour prétendre savoir faire mieux que Dieu ? Donc, reposons-nous le septième jour. Ben, je devrais me le dire de temps en temps. Bref. Oui, c'est vrai, il faudrait que de temps en temps... Voilà. Mais donc, vous avez un modèle qui est donné ici. Et c'est évidemment la visée théologique. On est dans un cadre où on insiste. Et ça, vous allez le retrouver dans les 10 commandements. Alors, on y viendra, hein, c'est dans l'Exode. Donc ça, c'est dans quelques semaines. Mais dans les 10 commandements, un des 10 commandements, c'est de dire, voilà, il faut se reposer le septième jour. On travaille 6 jours, on se repose le septième jour. Alors, historiquement, on se pose la question d'où ça vient, ce cycle de 7 jours. Alors, on se dit, est-ce que c'est lié au cycle lunaire, puisque le cycle de la Lune, c'est 28, 29 jours. Donc, si on divise en 4, ça fait 7, etc. Enfin, bref, il y a des... On n'a pas le temps de rentrer dans les détails là-dedans. Mais en tout cas, retenez que dans ce chapitre-là, on insiste, évidemment, et que une des visées théologiques majeures, c'est d'insister sur la création du monde en six jours pour pouvoir se reposer le septième. Un petit détail sur la création de l'être humain, verset 26, je l'ai dit tout à l'heure aux étudiants en hébreu, Dieu crée Adam. Et là, au verset 26, on a Adam. Alors, votre traduction, elle n'a peut-être pas ça. Moi, j'ai, par exemple, dans la NBS, j'ai « faisons les humains » à notre image. En hébreu, c'est Adam. « Créons Adam à notre image ». Et il le dit au verset 27, hein, Dieu créa les humains à son image, donc il créa Adam à son image, il le créa mâle et femelle. Donc Adam, le mot Adam en hébreu, qui va donner Adam, on va voir au chapitre suivant, en fait ça veut dire être humain. Donc ça n'est pas un nom propre avant tout, c'est avant tout un nom commun. Et on va le retrouver fréquemment. Adam, c'est être humain. Mâle ou femelle. Si c'est homme et femme, il y a ish et isha en hébreu. Il y a d'autres mots pour ça. Donc vous voyez ici qu'on introduit l'être humain, on le crée mâle et femelle, et on le crée à l'image de Dieu. Alors là, c'est très important. Là, il y a aussi... Je vois déjà que je commence à passer beaucoup de temps à faire mon commentaire, il va falloir que j'accélère le rythme. Mais bon, c'est quand même des versets fondamentaux, c'est quand même des chapitres, vous êtes d'accord. C'est quand même, il le crée... Donc, créons-le à notre image, selon notre ressemblance. Alors ça, c'est un élément fondamental qui est spécifique à l'être humain, c'est-à-dire que les autres espèces animales, vous ne trouvez pas de telles mentions dans le chapitre. On crée les autres animaux, on crée les reptiles, les oiseaux, les mammifères, tout ce que vous voulez, mais pas à l'image. Donc, l'être humain a quelque chose de particulier qui le distingue de toutes les autres espèces animales, c'est qu'il est créé à l'image de Dieu. Alors évidemment, toute la discussion théologique, c'est de dire, mais en quoi consiste cette image? Est-ce que c'est une image physique? Est-ce que c'est une ressemblance morale, etc., etc. Juste après, on explique, quand même, cela dit, on développe en disant pour qu'il domine sur les poissons de la mer, etc., etc. C'est-à-dire que clairement, on insiste sur le fait que l'être humain est au-dessus de la création. Alors, attention, dominer, il ne faut pas penser à une domination, je fais ce que je veux, je suis tyrannique et je détruis tout. Au contraire, être au-dessus, c'est avoir une responsabilité. C'est-à-dire que l'être humain est responsable de la planète. Donc là encore, vous pouvez, il y a une richesse, y compris sur des débats théologiques à caractère écologique, et ça c'est quand même très contemporain, enfin c'est moderne, disons, de dire, nous les êtres humains, on ne peut pas se dédouaner en disant, vous savez, nous ne sommes qu'une espèce animale parmi les autres sur la planète, et si la planète va mal, ce n'est pas plus de notre faute que de celle des autres. Bien sûr que si, on est beaucoup plus responsable que les autres. Et c'est à nous d'assumer notre responsabilité sur cette planète. Alors, je continue parce qu'on est censé aller jusqu'au... On est à la semaine 1, là. Donc, vous voyez, il faut qu'on aille jusqu'au chapitre au moins 20 ou 21. Le chapitre 2. On a, à ce moment-là, donc, au début du chapitre 2, on a la fin du récit. Dieu se repose le septième jour. Vous voyez, c'est très important. Verset 3, Dieu bénit le septième jour. Il en fit un jour sacré, etc. Donc, Dieu bénit et consacre le septième jour. Il le met à part. Donc, c'est, comme je disais, le modèle... qui nous est légué pour dire, voilà, on travaille ces jours, etc., on se repose. À partir du verset 4, on passe au deuxième récit de création dont je vous avais parlé, où là, on introduit Yahvé, et on a un autre récit de création qui vient compléter le premier, qui est probablement peut-être antérieur, bon, enfin, j'en sais rien, mais bref. On revient à certaines choses. Par exemple, il y a des différences intéressantes. Au chapitre 1er, Dieu crée l'être humain, donc ça y est, c'est fait, l'être humain est créé. Au chapitre 2, on recrée l'être humain, en fait non, on le recrée pas, mais on revient sur le récit de la création de l'être humain, et cette fois-ci, on crée pas juste l'être humain mâle et femelle. On crée d'abord l'homme, le mâle, si vous voulez, et ensuite, dans un second temps, on va créer la femme. Donc voyez la différence, au chapitre 1er, on crée l'être humain mâle et femelle, ça y est, c'est fait. Au chapitre 2, en fait non, pas tout à fait, voilà, il y a une autre perspective qui est présentée. C'est d'abord le mâle qui est créé, l'homme qui est créé. Il est placé au milieu du jardin. Dans ce jardin, il y a deux arbres importants, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. L'être humain en profite, il est là. Au verset 20, le problème, c'est qu'il ne trouve pas de vis-à-vis pour l'homme. Autrement dit, les autres espèces animales, tout va bien, parce qu'il y a des mâles et des femelles, mais pour l'homme, ça ne va pas. Alors, pourquoi présenter en deux temps la création de l'être humain? Tout simplement pour insister sur l'importance de la création de la femme. De dire, l'homme sans la femme est incomplet. C'est intéressant, c'est riche aussi. Alors, je dis ça parce que les traductions sont parfois trompeuses. Il crée... où est-ce que c'est ça? Il lui crée une aide. Il dit au verset 18, hein, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui sera son vis-à-vis. Alors aide, on pense tout de suite à une aide ménagère, je vais lui faire une aide, je vais lui faire une domestique, je vais lui faire une esclave, etc., etc. Et je vois qu'il y en a beaucoup dans la salle à qui ça plaît énormément. Bon. Le mot hébreu employé ici, c'est ezer, qui traduit par secours, c'est l'herbe secourir, c'est le secours, l'aide, c'est venir à l'aide de quelqu'un, c'est venir à son secours. dans les psaumes, dans la Bible, Dieu vient à l'aide de son peuple. Il est le Ezer, l'aide de son peuple, l'aide du peuple d'Israël, c'est Dieu. De manière que l'aide de l'homme, c'est la femme. Donc, la femme ne vient pas aider l'homme dans le sens faire le ménage à sa place. Elle vient le secourir. Elle vient le secourir. Elle vient au secours de son insuffisance, du fait que voilà, il est pas heureux, il est pas complet, il est voilà, etc. etc. Bon. Voilà. Donc, c'est pas du tout un texte misogyne, si vous voulez. Hein. C'est pas du tout un texte. Bien au contraire. C'est tout le contraire, en fait. Et puis à la fin, voilà. Donc verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Donc là, il y a les trois étapes très importantes. C'est le caractère social fondamental de la société. L'homme quitte sa famille, s'attache à sa femme, ils deviennent une seule chair, donc un seul corps. Évidemment, c'est l'union sexuelle. Mais au-delà de l'union sexuelle, il y a l'union de vie, tout simplement. C'est-à-dire on vit avec quelqu'un et on devient complet ensemble, parce qu'ensemble, on est incomplet. Donc c'est la vision du mariage, si vous voulez. Et avec, bien sûr, la possibilité de procréation qui s'ensuit, qui arrivera très vite. Rassurez-vous, il faut attendre deux chapitres. Alors, entre deux, il y a le chapitre 3. Le chapitre 3, c'est là où patatras, tout dégringole, c'est l'arrivée du péché. Pour l'instant, tout va bien. Adam et Ève sont heureux, ils sont dans le jardin d'Éden, la vie est belle, tout ça, etc. Mais, chapitre 3, arrive un personnage, le serpent, qui a des pattes et qui parle, donc c'est pas exactement un serpent auquel nous on pense aujourd'hui. Bon. Et il leur parle et il commence à remettre en question ce que Dieu leur a dit. Parce que Dieu leur a dit, vous pouvez manger de tous les fruits sauf d'un, celui de la connaissance du bien et du mal. Si vous, le jour où vous mangez de ce fruit-là, vous mourrez. Et le serpent commence à remettre en question. Alors c'est pareil, je n'ai pas le temps d'étudier en détail. C'est très riche, la syntaxe. Il y a une subtilité en hébreu où il fait un jeu de mots entre ce que vous ne pouvez pas manger de tous les fruits ou vous ne pouvez manger d'aucun fruit. En hébreu, ça peut leur dire les deux. Donc, c'est pas la même chose de dire vous pouvez manger de tous les fruits sauf d'un. Donc, vous ne pouvez pas manger de tous les fruits parce qu'il y en a un dont vous n'avez pas le droit de manger. Et de dire vous n'avez le droit de manger d'aucun fruit. Donc, vous êtes privé de tout. Et évidemment, avec la formulation, le serpent est très doué. Et il formule les choses de telle manière à dire finalement, voilà, Dieu, il n'est pas si sympa que ça. D'abord, il vous empêche de manger de ça. Et pourquoi est-ce qu'il vous en empêche? Précisément parce que ce serait bien pour vous et qu'il ne veut pas votre bien. Et que vous serez à même de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Vous serez comme des dieux. Vous-même, vous serez des dieux. Et donc, connaissant le bien et le mal. On voit ici qu'il y a l'idée de base, je résume, la prérogative divine, ce qui différencie l'être humain de l'être divin, c'est que le divin est là pour dire ce qui est bien et ce qui est mal, il décrète, il a ce pouvoir de décision, alors que l'être humain est là pour qu'on lui dise, on lui dit voilà ce qui est bien et ce qui est mal. L'être humain sait qu'il y a des choses, il sait qu'il y a deux catégories, bien et mal, mais qu'est-ce qu'on met dans la catégorie bien et mal? Pour ça, c'est là qu'on peut dire effectivement que ça, c'est du ressort de Dieu. Et donc, si moi-même je dis c'est moi qui décide ce qui est bien et ce qui est mal, ça veut dire qu'effectivement je retire à Dieu sa prérogative et donc son autorité dans ma vie. Et finalement, manger du fruit, ça veut dire ça. Manger du fruit, ça veut dire je m'en fiche de ce que Dieu me dit, je décide pour moi-même, je n'en fais qu'à ma tête et je décide pour moi-même ce qui est bien et ce qui est mal. Et d'ailleurs, la preuve, je mange du fruit. Donc, évidemment, il y a tout un vocabulaire imagé. Vous voyez que dans tous ces récits-là, on est dans des récits de métaphores, c'est presque comme la fable de la fontaine, etc. Voilà, Adam, ça veut dire être humain, Riva, ça veut dire la vivante, etc. On leur donne des noms, mais ça veut dire que ce ne sont pas des individus en tant que tels. Adam, c'est l'humanité tout entière, évidemment. Et quand il y a ce péché qui est là, ce péché, il concerne l'humanité tout entière. On n'est pas dans des récits personnels. Vous verrez, quand on arrivera à des passages du livre des rois, on est dans un tout autre contexte, on est dans des chroniques, on est ancré historiquement. On va vous dire, quand on y sera, on vous dira ça se passe telle année, à tel endroit, le roi s'appelle un tel, etc. C'est très ancré d'un point de vue historique. Là, on est en dehors de l'histoire. On est dans de la préhistoire, si vous voulez. En fait, on n'est pas dans de l'histoire du tout. On n'est pas dans des récits historiques. Il ne s'agit pas de vous dire, alors ça s'est vraiment passé. Hein. Il y a des gens qui ont cherché à faire des calculs, hein, qui vous disent, oui, c'était en l'an 4004 avant notre ère. Je trouve ça génial, les gens qui disent, oui, en l'an 4004, au mois d'octobre, quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Enfin bref, il n'y a aucune référence chronologique. Il faut être sensible aux différents genres littéraires. Ce n'est pas pareil d'écrire de la poésie, d'écrire un roman et d'écrire une historiographie. Quand on fera des récits historiographiques, vous verrez, on vous donne des lieux, on vous donne des dates, il y a eu une bataille tel jour contre un tel, etc. Et historiquement, ça se vérifie, d'un point de vue archéologique. Là, c'est pas du tout le cas. Là, on est vraiment dans des récits de type mythologique, si vous voulez, pas au sens négatif. Hein, je suis pas le terme mythe est un terme important comme genre littéraire. On est vraiment dans la mythologie. Et c'est donc d'une richesse absolument fabuleuse au niveau du contenu. Bref, toujours est-il que l'être humain succombe à la tentation, mange du fruit défendu et se retrouve chassé du jardin d'Éden. Le chapitre 4, on continue, maintenant la vie continue, cela dit. Hein. Et c'est là que Adam et Ève vont avoir des enfants, deux enfants, Abel et Caïn. Et là aussi, on a, je vous dis, la Genèse est le livre des commencements, on a aussi le commencement de tout, y compris le commencement du meurtre. C'est le premier meurtre, puisque Caïn va tuer son frère Abel, il sera jaloux, parce que Dieu aura agréé l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn. On a une liste ensuite des descendants de Caïn. Alors oui, pareil, j'insiste sur le caractère non historique de ces chapitres. Caïn, une fois qu'il est chassé, il s'en va, il s'installe, il prend une femme, il s'installe dans un village. Et il y a toujours des gens qui viennent me voir en disant « Mais je comprends pas, parce que pour l'instant, il y avait Adam, Ève, ils ont eu Caïn, Abel, Caïn tue Abel, il y a que trois êtres humains sur la planète, comment est-ce que Caïn peut aller s'installer dans un bled et se marier, etc. etc. D'où est-ce qu'ils sortent ?» Bon, évidemment, si je vous dis, ce sont des chapitres à caractère mythologique. On raconte, c'est pas des récits historiographiques. Donc, c'est pas grave. Oui, effectivement. Non, il n'y a pas que trois êtres humains sur la planète, bien sûr que non. Voilà. Donc, Caïn s'installe. On a un récit de la généalogie de Caïn au chapitre 4. Et au chapitre 5, on a une autre généalogie depuis cette fois-ci Seth, donc, qui est un autre fils d'Adam et Ève. Alors, ce qui est très intéressant quand vous comparez ces deux généalogies, en chapitre 4 et 5, c'est que vous voyez qu'en fait, ce sont les mêmes. À peu de choses près. En fait, il y a deux personnages qui ont permuté, et c'est Enoch. Le personnage d'Enoch permute pour se retrouver en septième position dans le chapitre 5. Au chapitre 5, vous avez 10 générations entre Adam et Noé. Donc, vous avez 10 générations, avec à chaque fois, c'est les premiers-nés. À chaque fois, vous avez deux générations, le premier-né. Donc, Adam, bon, pas Seth, évidemment, mais ensuite, après Seth, on recommence à Enoch. Et en fait, le Enoch que vous avez au verset 9, c'est le début, si tu veux. Enoch, oui, Enoch, ça veut dire être humain en hébreu. Donc, on va dire qu'on recommence à Enoch. Donc, ensuite, vous avez Cainan qui correspond à Caïn. Vous avez ensuite Mahalalel, etc. Bon, Yéred que vous allez retrouver à... alors il y a des petites variantes orthographiques en fait, et puis du coup en français mais c'est Irad au chapitre 4, Enoch on le retrouve dans les deux cas, etc. etc. Bon. Donc vous voyez, pareil, vous avez une ancienne liste manifestement de généalogie qui a été intégrée à deux reprises dans la Bible, mais après avoir voyagé, et au fur et à mesure des voyages qu'elle a fait, les noms ont un peu changé. Voilà. Mais surtout, ce qui est intéressant au chapitre 5, c'est qu'on a permuté Enoch pour mettre en 7e position. Le chiffre 7, c'est le chiffre divin, le chiffre parfait. Et ça veut dire qu'Enoch, c'est un personnage particulier. Et si vous regardez le chapitre 5, il est un peu répétitif. Hein. À chaque fois, c'est un tel vécu tant d'années, puis il engendra un fils, puis machin, puis il vécut encore tant d'années et il y a encore d'autres ans, puis il mourut. Et on passe au suivant. Un tel vécu tant d'années, etc. Donc c'est très stéréotypé, mais ça change. Il y a très peu de différences. Il y a une petite différence sur Adam. On nous dit qu'il a engendré un fils à sa ressemblance. Pour Noé, le tout dernier, évidemment, ça change, évidemment. Et puis Enoch, surtout. Alors là, d'un seul coup, on nous dit qu'il marcha avec Dieu. Il vit très peu, 365 ans. Alors, je vais me dire, c'est quand même vénérable, 365 ans. En fait, c'est très peu. Si vous regardez chapitre 5, ils ont tous 900 ans et quelques, etc., etc. Et le plus vieux, c'est Mathusalem, évidemment. On dit toujours vieux comme Mathusalem. C'est le plus vieux puisqu'il vit 969 ans. Voilà. Si vous faites un quiz biblique, à un moment donné, si on vous dit quel est l'homme le plus vieux de la Bible, Mathusalem, 969 ans. Donc, Enoch, il vit trois fois moins que les autres. Et 365, c'est pas un chiffre au hasard, c'est le nombre de jours dans une année solaire. Donc, en fait, et en plus, il ne meurt pas. On ne nous dit pas qu'il meurt, on dit « il ne fut plus, car Dieu le prit. » Voilà. « Enenu qui la carto Elohim. » Une formule un peu énigmatique, alors pas le temps de développer, je vous encourage à vous renseigner sur le personnage d'Enoch, etc. J'ai écrit des choses là-dessus dans l'intro à l'Ancien Testament, par exemple de Rumeurs, j'ai fait un chapitre sur Enoch, sinon j'ai le premier chapitre de mon premier livre qui parle aussi d'Enoch, etc., etc. Bref, donc je peux vous donner des pistes bibliographiques, si vous voulez. C'est évidemment un personnage important, dont on pense qu'il est, en fait, certains courants juifs et chrétiens pensent qu'il est monté au ciel et que donc il transmet des révélations, etc., etc. Donc il y a un livre d'Enoch, qui est dans la Bible, mais pas la vôtre, dans la Bible d'Éthiopie. Vous allez chez les chrétiens orthodoxes éthiopiens, ils ont le livre d'Enoch dans leur Bible. Et il est cité dans le Nouveau Testament. L'Épître de Jude, verset 14-15, cite le livre d'Enoch. Mais finalement, le livre d'Enoch n'a pas été retenu dans le canon, dans les autres Bibles chrétiennes, disons. Alors ensuite, on passe à Noé. Noé, c'est le chapitre du déluge, c'est l'époque du déluge. Donc vous voyez qu'on peut, grosso modo, voir ces 10 générations avant le déluge, et après le déluge, il y aura de nouveau 10 générations. Vous voyez que tout ça, c'est très symbolique, tout ça. Hein. On vous donne des chiffres, là, 10 générations, 10 générations. On n'est pas dans l'histoire, évidemment. À l'époque de Noé, le mal s'est répandu sur la planète, Dieu décide de tout détruire, mais il va épargner des couples de chaque espèce animale et évidemment aussi des êtres humains, et seul Noé sera préservé, lui et sa famille. Alors l'histoire du déluge, vous la connaissez, hein, ça dure quelques chapitres, et puis à la fin du déluge, Dieu dit très bien, je ne détruirai plus, fin du chapitre 8, verset 21, je ne maudirai plus la terre à cause des humains, je ne la détruirai plus par le feu. Par l'eau, pardon, mais il la détruira par le feu, du coup. Et il y a le signe de l'Alliance, qui est l'arc, vous avez chapitre 9, verset 13, l'arc-en-ciel est interprété comme étant le signe que Dieu ne détruira plus la terre par l'eau, par une inondation, par un déluge, mais qu'il la détruira par le feu, plutôt. Alors, je ne sais pas si c'est mieux, mais en tout cas, au moins, il n'y aura plus de déluge sur la planète, et à chaque fois que vous voyez un arc-en-ciel, ça peut vous le remémorer. Alors d'accord, là encore, c'est pas la peine de venir me voir en disant « Oui, mais en fait, on sait très bien que c'est un phénomène d'optique. Merci, je sais ce que c'est que la diffraction de la lumière et des longueurs d'onde. » Mais c'est quand même joli, un arc-en-ciel. Voilà. Et donc, c'est là encore, on est dans des textes poétiques. Bon. Il y a une alliance également. Alors, Noé a lui-même 3 fils, Sem, Cam et Japhet, qui vont de fait repeupler la planète, dans le mythe qu'on nous présente ici. Et on utilise encore cette terminologie, elle nous sert à donner les groupes de population. Par exemple, on dit que l'hébreu est une langue sémitique, parce que voilà, Sem s'installe là, et du coup, on dit c'est la région, etc. Il y a les langues kamitiques. Ce matin, on parlait de l'égyptien, on demandait si Ra, en hébreu, l'adjectif qui veut dire mauvais, est apparenté au dieu Ra égyptien, et je disais non, parce que c'est des langues différentes, les langues sémitiques et les langues kamitiques. Alors, il y a le groupe des langues kamito-sémitiques, il y a même un groupe de recherche spécialisé dans ces langues, mais ça devient un peu compliqué, disons. Alors, on a aussi, la Genèse est toujours le livre des commencements, il y a le début de tout, hein. Il y a le début de la première cuite, oui.
Il
n'y
a pas des langues aphétiques
aussi? Si, alors le grec, etc. Mais on ne l'utilise pas, maintenant on dit des langues indo-européennes. Non, le problème c'est que d'utiliser ce vocabulaire-là dans un cadre scientifique, c'est un peu problématique. De dire des langues sémitiques, voilà, on aurait pu trouver un autre terme, mais à l'époque, bon voilà, c'était... bref. Donc, non, nos collègues qui travaillent sur les langues indo-européennes préfèrent dire des langues indo-européennes que... Voilà. Oui, je disais, donc, on a aussi le récit de la première cuite, chapitre 9, verset 21. Noé plante une vigne, il boit, il s'enivre, et voilà, il se trimballe à poil, etc. Enfin, c'est le genre de choses qui se passent quand on boit un peu trop. Heureusement, à l'époque, il n'y avait pas encore Facebook, donc c'est pas trop avec des photos de lui sur Facebook, bref. Mais c'est l'occasion surtout de maudire Canaan, le verset 25. Alors, ce qui est surprenant, puisque, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que ses fils, donc son fils Cam, voit la nudité et il voit que son père est nu, et plutôt que dire oh là là, il a trop bu, je vais le couvrir, etc., en fait, il fait rien, il va voir ses frères, il dit hey, venez voir, papa se trimballe à poil, etc. Et les autres, du coup, justement, prennent un manteau, ils le couvrent en disant mais non, bon, voilà. Et du coup, Cam n'a rien fait pour protéger son père. Et du coup, il a droit à une malédiction, entre guillemets. Sauf qu'au verset 25, la malédiction, elle ne tombe pas sur lui. Elle tombe sur Canaan, qui est censé être un des fils de Cam. Donc, on voit là encore que c'est rétrospectivement. Le rédacteur écrit une époque où, justement, on veut maudire Canaan parce que la population cananéenne, c'est celle qui va occuper la terre promise au moment où on va vouloir en prendre possession. Donc, si on veut arriver... sur la terre de Canaan, donc la plaine côtière, ce qui correspond à bah, Israël aujourd'hui, vous voyez où c'est situé, en dessous du Liban et au-dessus de l'Égypte, quoi. Si on veut arriver et virer la population locale sans avoir de problème de conscience, on dit, bah oui, mais de toute façon, cette population, elle est maudite. Voilà. Donc, alors, on appelle ça un récit étiologique. Je vous l'écris au tableau, peut-être. De toute façon, vous le rencontrerez. On dit que c'est un récit étiologique. Ça vient de aition en grec, et aiti, qui veut dire la raison en grec. Donc un récit éthiologique, c'est un récit qui donne la raison. qui donne l'explication, qui dit voilà la raison pour laquelle on fait ce qu'on fait. Donc on prend une situation actuelle et on vient légitimer en fait ce qui se passe ou expliquer ce qui se passe et on donne un récit. Et donc l'explication de pourquoi est-ce qu'on chasse les Cananéens, etc., eh bien c'est parce que de toute façon ils sont maudits depuis Noé. Le chapitre 10 nous donne la liste des peuples de la planète, sur toute la Terre, etc., etc. Et en fait, donc voilà, c'est une façon d'indiquer la répartition. C'est très intéressant parce qu'il y a des... Vous voyez, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais on voit la répartition des populations telle qu'elle est connue à l'époque. Et donc, ça nous donne plein de noms de noms de lieux, de noms de populations, de noms de... etc., etc. Ça va permettre d'introduire le récit de la tour de Babel, au chapitre 11. Au chapitre 10, on donne donc toute la liste des nations. On dit, voilà, toutes les nations depuis Noé s'est répartie sur la planète. Et au chapitre 11, on nous dit que toute la Terre parlait la même langue. Tout le monde parle la même langue. Et du coup, ce qui n'est pas forcément un problème en soi, mais disons qu'ils décident de s'unir et de bâtir une grande tour. Alors, à quoi ressemble cette tour ? On en a sur des sites archéologiques, ça s'appelle une ziggourat. Une ziggourat, ça ressemble un peu à une pyramide à degrés. Vous en avez en Égypte aussi. Je ne parle pas des belles pyramides de Giza qui, elles, sont bien lisses. Mais si vous allez quelques kilomètres à Saqqara, il y en a qui sont allés faire les... Non ? Bon, alors il faut y aller. L'Égypte, on se fait un petit voyage en Égypte, on va visiter les sites. Donc, en fait, vous avez des pyramides plus anciennes, notamment pyramide de Djoser, par exemple, etc., etc., ou qui est déjà un troisième millénaire avant notre ère, hein, les Égyptiens sont très forts depuis très longtemps. En fait, c'est des pyramides à degrés dans une sorte d'escalier, en fait. Et au lieu qu'elles soient tout lisses, en fait, vous avez un étage, puis un deuxième étage, puis un troisième étage, etc. Donc ça fait une sorte d'escalier. Et c'est plus facile à construire que de faire, évidemment, une pyramide toute lisse, parce qu'il faut... Voilà. Donc, les ziggourats, c'est à peu près le même principe. Bon, là, je n'ai pas de photos à vous montrer, je n'ai pas prévu, mais vous tapez ziggourat sur Internet, sur Wikipédia, et vous trouverez tout de suite des belles photos. Il y en a une qui est très connue, la ziggourat d'Ur, parce qu'elle a été partiellement restaurée. Et ça permet, évidemment, de faire quelque chose de très, très haut, sans que ça se casse la figure. À l'époque, la tour Eiffel, tout ça, on ne sait pas exactement faire, les calculs. Donc, plus la base est large, plus on peut monter haut. Et, alors, là encore, faire une tour, ce n'est pas forcément problématique en soi. Les ziggourats servent au culte. Et l'idée, bien sûr, c'est de monter vers le ciel, puisque nous, on est là sur Terre, et dans le ciel, il se passe plein de choses. Il y a les étoiles qui bougent, le soleil, la lune. Tout ça, on pense que ce sont des divinités. Chaque petit point lumineux dans le ciel, c'est une divinité. Quand il y a une étoile filante, on se dit, tiens, il se passe quelque chose, il y a quelqu'un qui bouge, etc., etc. Donc, on veut monter vers le ciel, c'est normal. Donc, cette ascension, on la comprend bien. Mais surtout, ici, ce qui est critiqué, c'est au verset 4, « Faisons-nous un nom. » Autrement dit, encore cette idée, c'est nous-mêmes. Voilà. Moi, ce qui est critiqué, c'est ce qui est dénoncé ici, c'est là encore le fait que l'être humain cherche son intérêt plutôt que de s'humilier devant Dieu ou de faire preuve d'humilité ou de laisser Dieu, etc. Donc il y a cette rébellion. Et du coup, Dieu décide de les disperser. Donc ils brouillent leur langue. De fait, ils ne se comprennent plus. Ils n'arrivent plus à travailler ensemble et ils se dispersent. Voilà. Et donc c'est encore un récit étiologique, c'est-à-dire on donne la raison. Et on répond à la question, on dit tiens, mais pourquoi il y a plein de langues sur la planète ? Il me dit, mon fils, je vais t'expliquer pourquoi il y a plein de langues sur la planète. Il était une fois, et voilà. Et on raconte ce genre d'histoire. Et l'historicité importe peu. Je vous donne un autre exemple de problème d'historicité. Quand on dit, verset 9, c'est pourquoi on l'appelait du nom de Babylone, car c'est là que le Seigneur brouilla la langue, etc. En fait, en hébreu, le terme que vous avez, c'est Babel, en hébreu, Babel, alors je ne veux pas faire d'hébreu, mais littéralement, c'est la porte de El. D'accord ? Et c'est le nom de la ville, Babylone, ça s'appelle, c'est la porte de El, parce que le dieu El, ou du dieu, on peut le voir là. Et en acadien aussi, donc c'est la langue parlée à Babylone, il y a aussi une forme augmentée, je vous ai dit, en hébreu, il y a El et Elohim. En acadien, il y a il et ilanou. L'augment, ce n'est pas un he, c'est un nun. Bon. Et donc, ça fait babylanou. Et en grec, ça fait babylone. Donc, quand vous avez la forme babel en hébreu et babylone, donc babel, ça vient de l'hébreu, enfin même de l'acadien, et babylone, ça vient du grec, c'est parce que vous avez la forme acadienne ancienne et la forme acadienne récente. Donc, babel et babylone, c'est les deux noms, les deux mêmes noms d'une même ville, et ça veut dire la porte de Dieu ou la porte des grands dieux. Ça n'a rien à voir avec brouillon, etc. Simplement, c'est pas... c'est allophone, ça sonne pareil que, etc., etc. Donc c'est ce qu'on appelle une remotivation. On prend un nom, on dit tiens, ça sonne comme ça, donc on vient enrichir le nom d'une signification qui n'est pas la bonne, c'est pas la bonne étymologie, mais c'est pas grave parce que le but n'est pas un but d'exactitude scientifique. À la fin du chapitre 11, on a de nouveau 10 générations après le déluge cette fois-ci, à partir de Sem, Sem qui est l'aîné de Noé. Donc vous voyez, pour l'instant, chaque fois, c'est les générations des premiers-nés. Et là, ce sont les premiers-nés sémites, puisque c'est Sem. Donc vous avez 10 générations avant, 10 générations après, et à la 10e génération, vous avez un certain Abraham. Alors on dit, on va continuer longtemps comme ça à faire les générations ? Non. Tout simplement parce qu'Abraham a un problème. Enfin, lui, non. Sa femme a un problème. Elle est stérile. Donc, le livre de la Genèse, le récit des commencements, commencement de la stérilité. La lignée s'arrête. De génération en génération, à chaque fois, on dit, voilà, un tel, son premier-né. Oui, mais Abraham, il n'a pas de premier-né parce que sa femme est stérile. Et c'est là que tout va basculer. C'est là qu'on va passer à un récit individuel, focalisé sur Abraham, sur la façon dont Dieu va intervenir par rapport à la stérilité de sa femme. Et vous allez voir que le problème de la stérilité, du coup, va devenir un mot-clé, puisqu'on va le retrouver à chaque génération. Là, il y aura le même problème de génération en génération, et à chaque fois, Dieu va intervenir. Et il y a une raison théologique à cela, là encore, ça veut dire, ce que je fais, c'est, comment dire, si tu as une postérité, ça n'est pas grâce à toi, c'est grâce à moi. Autrement dit, la postérité d'Abraham sera le résultat direct de notre invention divine. Si d'Abraham naît un peuple nombreux et puissant, Abraham ne pourra pas dire « Ah, c'est moi !» Le peuple ne pourra pas dire « On s'est fait nous-mêmes !» Non, ils ne pourront pas dire « On s'est fait nous-mêmes !» C'est Dieu qui les aura faits. Par intervention divine et plusieurs interventions divines successives. Et vous allez voir que à plusieurs reprises comme ça, Dieu va même volontairement perturber le cours naturel des choses. Le cours naturel de l'histoire, Dieu va le perturber précisément pour dire non, je ne veux pas que les choses se fassent naturellement pour que les gens pensent que s'ils en sont là où ils en sont, c'est parce que ça s'est fait naturellement. Je veux que les gens soient conscients que c'est moi qui fais ça. Et évidemment, ça vient répondre au récit de la tour de Babel où les hommes disent on va se faire un nom. Et ce que Dieu va dire à Abraham, chapitre 12, verset 2, je rendrai ton nom grand. Vous voyez la différence entre Babel, on va se faire un nom, et Dieu dit non, c'est moi qui vais te faire un nom. Et je vais intervenir, moi, de façon surnaturelle et divine pour te faire un nom. Donc cette stérilité de Sarai va être un déclencheur, va provoquer un bouleversement et va complètement changer le cours des choses. Et évidemment, c'était plus ou moins voulu, je pense. Voilà. Bon. Alors, je passe pas à regarder tous les détails de la vie d'Abraham. Au chapitre 12, quand même, assez tôt, ils partent en Égypte. Vous voyez, à partir du verset 10, il y a une famine. Et du coup, ils descendent en Égypte. Alors ça, c'est un phénomène récurrent. La famine, on descend en Égypte. Vous l'avez au chapitre 12, vous retrouverez au chapitre 20, vous retrouverez au chapitre encore 28, si je me souviens bien, cette fois-ci avec Jacob. Et donc, du coup, ou peut-être pas 28, non, je regardais où est-ce que ça se... Bref. Alors, donc c'est une idée récurrente, la famine. On va se nourrir en Égypte. Et l'Égypte est un lieu d'accueil et de refuge, un lieu de protection. C'est le lieu où on va réchapper au danger, où on va être préservé. Donc c'est très positif, l'Égypte, dans ce cadre-là. Et vous remarquez que dans l'évangile de Matthieu, les parents de Jésus, Joseph et Marie, s'enfuient en Égypte pour éviter le massacre, puisqu'Hérode veut tuer tous les premiers-nés, etc. Et évidemment, cette reprise du thème de l'Égypte comme terre d'accueil et de refuge, elle n'est pas anodine, c'est évidemment voulu. On reprend cette typologie, signification symbolique de l'Égypte qu'on trouve dès la Genèse. Oui.
Donc est-ce qu'on peut faire un parallèle entre l'intervention divine pour Abraham et l'intervention divine pour Marie ?
Oui, absolument. De toute façon, dans l'évangile de Matthieu, tout le parcours de Jésus calque le parcours du peuple d'Israël. Il traverse le Jourdain, il y a le baptême, disons, dans le Jourdain, qui est comme la traversée de la mer Rouge, etc. etc. Et Matthieu dit à chaque fois, d'ailleurs, allez voir dans la Bible. Hein, ainsi s'accomplit l'écriture selon ce qu'a dit le prophète, etc. etc. Il le dit quand il en dit, hors d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Il cite le prophète Osée, qui justement fait allusion à la sortie d'Égypte, etc. Donc en fait, toutes les étapes de la vie et du ministère de Jésus, dans l'évangile de Matthieu, est complètement calqué sur l'histoire du peuple d'Israël. C'est voulu, hein. C'est même pas implicite, c'est vraiment voulu. Jésus, à lui tout seul, revit, c'est le nouvel Israël. Et ce sera repris dans l'épître aux Romains. Mais bon, je suis pas censé vous faire du Nouveau Testament pour ce cours. Donc je m'arrête là pour ça. Alors, donc le thème de la sœur épouse, il y a un bouquin qui est sorti l'an passé aux éditions du Cerf. Mon collègue Yann Nostuen y a contribué. Voilà, je fais une petite pub au passage sur le thème de la sœur épouse. Donc, ils descendent en Égypte et Abraham dit à sa femme, « Dictez ma sœur plutôt que mon épouse, parce que sinon on va me tuer. Bon. » Évidemment, ce n'est pas une très très bonne idée, puisque du coup, Dieu n'est pas content, et puis il frappe le Pharaon, verset 17. Et finalement, le Pharaon dit, « Mais je ne comprends pas, j'ai pris cette femme, et pourquoi j'ai des malheurs ?» Et en fait, il comprend qu'elle est mariée, et il dit, « Abraham, mais t'aurais dû me le dire, tiens, prends ta femme et 20 ans. Bon. » Alors au chapitre 14, on a un récit de guerre sur lequel je vais passer, en signalant simplement au verset 3 que la bataille se place dans la vallée de Sidim, c'est-à-dire la mer du sel, c'est la mer morte. Et on a dans l'idée, il y a plusieurs versets qui semblent suggérer qu'à l'époque, enfin que pour le rédacteur de la Genèse, il pense que du temps d'Abraham, la mer morte n'était pas une mer, c'était un désert, et qu'il n'y avait pas d'eau. Et donc peut-être que les sites de Sodome et Gomorre sont quelque part enfouis dans l'eau au milieu de la mer morte. Il y a quelques versets comme ça qui pourraient le suggérer. Au cas où vous chercheriez les sites de Sodome et Gomorre, il y a des gens qui l'ont fait. Hein, le site de Qumran, par exemple, quand vous lisez les premiers explorateurs du 17e siècle ou 18e siècle, ils disent « Ah oui, Qumran, ça fait penser à Gomorre. » Ils disent « Tiens, c'est le site de Gomorre. » Et sur certaines cartes, il y a marqué Gomorre. Au chapitre 15... on a cette alliance que Dieu contracte avec Abraham. Au chapitre 12, Dieu avait appelé Abraham, il avait dit, voilà, quitte ton pays, je vais t'emmener vers la terre promise, je vais résoudre, entre guillemets, le problème de société de Sarah, et tu auras une grande descendance. Et là, ça revient au chapitre 15, et cette fois-ci, Dieu va vraiment conclure une alliance plus formelle avec sacrifice d'animaux. On prend une chèvre, on prend un bélier, une tourterelle, une colombe, etc. Il prend les animaux, il les coupe, il passe au milieu. Enfin, c'est Dieu qui passe au milieu, etc. Donc là, on voit, il y a une reprise de rituels qui étaient connus à l'époque. D'ailleurs, vous pouvez voir dans Jérémie 34, vous avez la même chose, vous avez le même rituel, on coupe les animaux en deux. Jérémie 34, 18, j'ai noté dans la marge de ma petite Bible. Vous verrez le parallèle, c'est un rituel qui est connu. Et puis au verset 6... Il y a un moment très important, un verset très important, on dit d'Abraham qu'il mit sa foi, il crut littéralement dans le Seigneur, en Yahvé, il le lui compta comme justice. Alors c'est un verset extrêmement important, c'est-à-dire que Abraham est déclaré juste par Dieu, non pas parce qu'il a fait des choses extraordinaires, mais parce qu'il a placé sa confiance en Dieu. Et donc l'idée c'est que Dieu nous déclare juste, il n'attend pas de nous qu'on soit parfait, mais il attend de nous qu'on lui fasse confiance et qu'on soit obéissant. Et c'est cette confiance, cette obéissance qui nous donne ce qu'on appelle la justification en théologie. Et évidemment, c'est un thème cher à l'Épître aux Romains. Et Paul va reprendre, évidemment, Genèse 15:6 dans sa discussion. Au chapitre 16, nouvel épisode dans l'histoire de la stérilité. Sarah n'a toujours pas d'enfant. Alors, le problème, c'est que les années passent. Hein. Alors, c'est bien gentil, cette promesse de Dieu, oui, t'inquiète pas, tu auras une grande prospérité, mais... durant la postérité, mais les années passent et Sarah n'a toujours pas d'enfant. Et du coup, elle a l'idée de prendre sa servante, Agar, une égyptienne, et de dire à Abraham, peut-être t'as qu'à coucher avec. Alors, on est un peu choqué, on dit, bah attends, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin bref, c'est quoi ces mœurs, c'est un peu bizarre. En fait, pas du tout. À l'époque, et là, vous pouvez télécharger sur mon site web, j'en ai parlé dans un petit article, j'ai mis le PDF en ligne, je donne des sources mésopotamiennes où on voit qu'il y a des contrats de mariage qui prévoit que si dans les 2 ans ou 3 ans, la femme n'a toujours pas donné d'enfant, eh bien à ce moment-là, soit il pourra prendre une autre femme, soit il ne pourra pas prendre d'autre femme. En fait, il couchera avec la servante de son épouse légitime. Comme la servante, c'est une esclave, donc elle appartient à la maîtresse, les enfants qui naîtraient de la servante appartiendraient aussi à la maîtresse. Donc ce seraient les siens. Donc d'une certaine manière, ce seraient les siens. Donc l'idée, c'est si Abraham a un enfant avec Agar, en fait, comme Agar appartient à Sarah, les enfants d'Agar appartiennent à Sarah. Donc ce seront aussi les siens. Donc pour nous, ça peut peut-être paraître un peu bizarre comme mode de fonctionnement. En réalité, c'est très bien documenté, c'est comme ça que ça se pratiquait dans l'orientation. On appelle ça la mère surérogatoire. Du coup, ils le font et ça marche. Alors moi je dis, il y a de quoi être un peu vexé, parce que bon, avec Sarah, ils attendent, ça ne marche pas. Agar, apparemment, hop, tac, tac, deux temps, trois mouvements, ça y est, c'est fait. Et évidemment, Abraham, du coup, on l'imagine, il est gaga, oh, t'es belle, je peux écouter, ah oui, il a bougé, enfin, vous imaginez, bref, bon, je vous passe les détails. Forcément, ça crée des tensions entre Sarah et Agar. Sarah dit à Abraham, mais qu'est-ce que tu fais, etc., attention, c'est une esclave, dis-lui, voilà, remets-la à sa place, etc. Genre, elle a qu'à faire le ménage. Je vois Abraham, il dit, non, faut pas qu'elle fasse le ménage, tu rigoles, elle est enceinte et tout, enfin bref. Enfin, voilà, bon. Toujours est-il que elle se plaint, Abraham dit, écoute, c'est ta servante, fais ce que tu veux. Ça, c'est bien un homme, hein. Genre, ben, désolé, mais enfin, les hommes, c'est un peu ça, hein. S'ils peuvent fuir leurs responsabilités, en général, bref. Abraham passif, du coup, débrouille-toi, bon, bref. Donc, du coup, Sarah chasse Agar, qui part avec son fiston. Non, pardon, c'est la deuxième épisode. Non, elle n'est pas encore née. Elle est encore enceinte, pardon. Et donc, du coup, elle s'enfuit. Un ange la visite, lui dit, tu vas avoir un fils, tu vas l'appeler Ismaël. Ça veut dire Dieu entend. Et tu dois revenir, et tant pis, si on te maltraite, tu dois quand même revenir. Du coup, elle revient, effectivement, et elle donne un fils qui va s'appeler Ismaël. Donc, c'est le premier-né d'Abraham. Il a enfin un enfant. Le problème, c'est que cet enfant... Il n'est pas né de Sarah, il est né d'Agar. Alors, en un sens, on peut dire c'est normal. Dieu avait promis qu'il aurait un enfant, il en a eu un. Mais en même temps, ce n'est pas avec Sarah. Mais il va falloir un certain temps avant qu'Abraham comprenne, en fait, ce qui se passe. À un moment donné, Dieu va revenir le voir en disant, voilà, tu vas avoir un enfant, Sarah va être enceinte. Alors, il dit, je ne comprends pas, j'ai un enfant, c'est bon. Et Dieu lui dit, non, la solution que tu as utilisée, pour toi, c'est la solution normale. Mais moi, Dieu, ce n'est pas la solution que je veux. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Dieu ne veut pas... ne veut pas de solution humaine. Dieu veut intervenir de façon surnaturelle, miraculeuse, pour qu'on voit l'empreinte divine au travers de l'histoire. Et donc, du coup, il réitère, et il lui donne le signe de l'alliance au chapitre 17, qui est la circoncision au verset 10. Donc la circoncision, c'est un signe de l'alliance entre Dieu et Abraham. Et en particulier, le fait que c'est Sarah qui aura cette naissance surnaturelle. Il lui dit au verset 10... du chapitre 18, je reviendrai chez toi l'année prochaine, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah elle-même rit, elle n'y croit pas trop, et du coup, le fils s'appellera Isaac, Yitzhak, qui veut dire il rit. Donc, voilà, parce qu'il a. Au chapitre 18, on a aussi l'épisode de Sodome et Gomorre, où Dieu décide de détruire Sodome et Gomorre. Le problème, c'est que le neveu d'Abraham, Lot, y est, et donc Abraham va insister pour que Dieu ne détruise pas cette ville. Mais Dieu avait l'intention, regardez au verset 21, chapitre 10, verset 21, Dieu dit, je vais descendre pour voir s'ils ont agi tout à fait selon les cris qui sont venus jusqu'à moi. Que cela soit ou non, je le saurai. Alors c'est un verset très intéressant parce que ça veut dire que Dieu n'est pas omniscient, omniprésent. Hein. Désolé pour mes collègues théologiens, mais Dieu ici, il dit, je veux savoir si ce qu'on m'a dit est vrai. Hein. Que cela soit non, je le saurai. Et comment je le saurai? Parce que je vais aller voir ce qui se passe. Et les cris qui sont venus jusqu'à moi. Donc j'ai entendu des trucs, je vais aller voir si c'est vrai. Donc je vais descendre pour voir. Donc Dieu, il n'est pas omniprésent. Il faut qu'il descende. Et il faut qu'il voie, etc., etc. Donc on est dans des textes, vous voyez, il n'y a pas d'homogénéité dans la Bible. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de théologie. Moi je suis exégète, forcément, donc je défends ma discipline. Mais je dis simplement que les disciplines bibliques, elles s'intéressent aux textes et à ce que les textes disent. Et les textes n'ont pas toujours tous une vision uniforme et homogène. Il y a une vision polyphonique, me disait mon collègue Daniel Jader ce matin, parce qu'il va avoir bientôt le concert d'Imouvrini la semaine prochaine, je ne sais pas quand. Donc il me parlait de polyphonie et il me disait la théologie biblique est polyphonique. Bref, on va s'arrêter là parce que c'est l'heure en fait. Je suis un petit peu en retard, il faudra que j'accélère un peu le rythme la semaine prochaine. Mais voilà, on s'arrête là pour l'instant et je reste disponible pour des questions, des discussions, etc. etc. Oui, des questions. Pourquoi on l'appelle Adam? Parce que c'est l'être humain et parce qu'il faut lui donner un nom. Et que justement, on veut souligner que le nom de l'homme est un peu artificiel et qu'il ne faut pas penser que c'est un seul individu. C'est pour insister sur le fait que ce personnage d'Adam, en fait, représente l'humanité plus entière. C'est voulu, c'est pour ça qu'on l'appelle Adam. On aurait pu l'appeler Ish, par exemple. La racine Adam veut dire rouge. Edom, Adam veut dire rouge. Le peuple d'Edom, Adama, c'est la terre que tu ramasses en terre, qui est dans ta main, et qui est rougeâtre. C'est un côté un peu argile. Donc effectivement, le mot Adam est de la même racine. Alors,
rouge, pas parce que c'était le mot rouge, mais est-ce que c'est effectivement parce qu'il a été fait à partir de la terre? Oui. Alors le mot homme français est apparenté à humus, humus en latin, mais c'est la terre, le sol, humus. Donc en latin aussi, homme et humus. Si tu veux, ouais. Moi je pense, mais. Ça, j'ai aucune idée. Pourquoi c'est une pomme? C'est notre contraire d'un
œuf. Non, c'est la pomme. C'est...
Je ne sais pas à quelle époque. C'est une bonne question. Je ne sais pas à quelle époque on introduit la pomme. Non, mais il n'y a pas de pomme dans la Bible. Donc, je ne sais pas pourquoi, à quel moment, on peut être. Je ne sais pas si c'est dans l'Antiquité, je ne sais pas si c'est au Moyen-Âge. Il y a des spécialistes d'histoire de l'art, des iconographes. Peut-être qu'ils pourront vous dire à quelle époque on commence à utiliser nos pommes, enfin, le, pas nos pommes, mais la pomme. Non, alors, ma connaissance, elles ne sont pas vraiment ailleurs. Pourquoi ces deux filles-là, on ne sait pas. Pourquoi ça ne mène pas par contre sur ces deux filles-là. On ne sait pas si elles ont été situées, on ne sait pas si les noms eux-mêmes des filles-là. Donc on n'a pas les sensations historiques pour appeler le coup de filles. C'est difficile de dire pourquoi ces deux filles-là, est-ce que les noms sont totalement inventés? Est-ce que ça fait quand même allusion à une vraie histoire? Il y a plus passé quelque chose. Bien souvent, quand on écrit des textes, il y a quand même passé quelque chose. Il y a peut-être vraiment eu une ville de son nom, de mon droit. Il y a peut-être eu des problèmes. Là, évidemment, c'est une année dans les niveaux de chien de mon genre, mais il y a pas de temps que j'en en parle. Évidemment, c'est la pratique homosexuelle. C'est ça qui est très difficile. Et surtout, le fait que l'on en parle. On en parle un petit peu la prochaine fois, mais la prochaine fois, j'ai une chose. Pourquoi ses parents qui prennent oui, c'est une très bonne question. Disons que il y a la notion que c'est pas forcément du mal. Il y a la notion que le mal est mal quand on ne sait pas. C'est-à-dire, même si Pharaon n'est pas au conscient de ce qu'il fait, c'est mal. C'est-à-dire qu'il y a quand même une notion d'absolu de mal. Trois récits, il faut les lire ensemble, hein, trois récits, François et les antiques. Il faut les lire ensemble pour voir effectivement que. Alors, dans la Bible, c'est assez problématique le fait qu'Abraham ment, demande à sa femme de mentir, tout ça. On sent que c'est problématique et la solution au problème est apportée dans d'autres récits. À un autre moment, par exemple, on apprend dans un autre texte, sur notre, on a trois textes parallèles, dans un des textes, le rédacteur trouve la solution en disant qu'en fait, Sarah était vraiment sa sœur, c'était sa demi-sœur. Donc, on sent que le rédacteur est embarrassé, c'est quand même pas technique, pas que Ram ne s'est pas mentir. On dit non, mais en fait, c'est pas vraiment du mensonge, parce qu'en fait, c'est sa demi-sœur. Et dans un autre cas, carré par Simon Gadé aussi, il faut sortir un peu de la version canonique du texte, mais dans la version apocryphe de la Genèse, vous avez parlé de Abraham fait un rêve. Et dans un rêve, on l'avertit du danger qui l'encourt, et c'est pour ça qu'il dit, il faut que tu lui dises que t'es ma soeur et ta femme. Et donc c'est une façon de dire, en fait, qu'Abraham, il a eu raison de faire ça, parce qu'en fait, il a eu un songe pendant la nuit, c'est une révélation divine qui a fait qu'il était vivement averti un songe, donc en fait, c'est pas mal ce qu'il a fait. Mais on sent que ces textes qui sont ajoutés comme ça dans d'autres récits, dans d'autres versions de ce récit, cherchent à compenser le... problème, le caractère problématique du fait qu'Abraham mente et demande à Sarah de mentir. Cela dit, effectivement, il n'est pas puni en tant que tel par rapport à ça. Donc, en fait, c'est assez important aussi, je trouve ça aussi. Et je pense que les rédacteurs ont trouvé que ce n'était pas très clean non plus. Ils ont toujours corrigé ça. Le Dieu de ce chapitre-là, c'est le Dieu qui dit « Je vais descendre pour voir si ce qu'on va dire est vrai. » Tu vois, on a tendance à plaquer la perception qu'on a du Dieu, omniprésent, omnipotent, omniscient, plein de vertus, plein de bonté, etc. Enfin, qui est parfait, quoi, ce Dieu parfait, etc. Et en fait, le Dieu de ces chapitres-là, c'est un Dieu qui est très qui a une personnalité qui est forte, c'est un Dieu qui n'est pas content, il me sait comme ça, là, je vais m'arrêter, etc. Et un Dieu avec lequel on peut négocier. Et Abraham, il arrive à négocier, du coup, il fait descendre le chiffre et tout, à l'oriental. Il descend, et il y en a 50, il y en a peut-être 30, et 20, et 10, 5, et à la fin, bon, allez. Bon, Dieu, quand même, des trucs, quand même, là, il se dit, mais il est pas, mais je note, etc. Alors, bien sûr, tu peux toujours faire une relecture théologique a posteriori, après coup, en disant, oui, mais en fait, Dieu, dès le départ, ça veut tout, et donc, en fait, il a donné ça pour donner l'occasion à Abraham de s'impliquer, et etc., etc. On peut toujours trouver des belles interprétations théologiques derrière. Que Dieu a fait ça pour qu'Abraham ait l'occasion même de prouver ou de montrer, peut-être pour tester Dieu, peut-être voulait tester justement la bonté d'Abraham, ou ses capacités à marcher.
Et la dernière question, moi je voudrais
que vous
pensez des âges des personnages.
Moi je pense que les âges, ils sont pas anodins. Ils ont un sens. Je parlais d'Énoch en 365, c'est sûr, c'est pas anodin. Tous les autres aussi, si tu regardes les plus anciens manuscrits de la Bible, les âges ne sont pas les mêmes. Dans le texte hébreu, le texte maçonnétique, donc je dis 10e siècle de notre ère à peu près, la version grecque ancienne, 3e siècle avant notre ère, la version des manuscrits samaritains. Alors, des manuscrits samaritains, on en a du 12e, 13e siècle de notre ère. En fait, on a des fragments à Qumran du texte hébreu qui appartiennent, disons, à cette famille samaritaine. Donc, on a trois familles différentes de textes et les dates ne sont pas les mêmes. Et si vous regardez l'huile des Juliers aussi, on a aussi découvert à Qumran, des temps éthiopiens, qui est partie de la Bible éthiopienne. On a aussi des dates encore différentes. Pourquoi ? Parce qu'on veut, alors c'est des jeux de calcul, soit c'est des calculs liés à des significations symboliques de chiffres. On va le voir, par exemple, j'en ai discuté, mais dans chapitre 14, Abraham va faire la guerre et il réunit 318 serviteurs, je ne sais pas quoi. Vous prenez quelqu'un comme Origène, je crois, donc un père de l'Église, dit, mais en fait, en grec, 318 machin, tac tac tac, c'est Jésus-Christ. Parce qu'on prend, tu prends les lettres, ça fait, je sais plus comment ça va, tu fais simplifier sa petite tambouille comme ça. Et donc, tu te dis, et en fait, c'est le Christ qui donne la victoire à Abraham. Donc, ça, c'est typique de l'interprétation chrétienne allégorique des premiers siècles de notre ère. C'est du néo-platonisme, c'est un faux, tout ça. Et donc, mais souvent, les chiffres, quand même, sont symboliques ou donnent lieu à des possibilités d'interprétation symbolique. Et donc, on change les chiffres dans les versions parce qu'on veut savoir qui est là au moment du déluge, à quelle année le déluge arrive. Par exemple, dans la version grecque, je crois que finalement, Enoch est encore vivant après le déluge. Or, dans la version du temps, tout le monde est mort, sauf Noé et ses enfants. Donc ça fait tâche de dire, mais attendez, si on fait le calcul, on change les dates à cause de ça.
En tout cas, c'est plus
oui, alors je ne pense pas que ça corresponde à une réalité. On a des chiffres, on a des listes de rois mésopotamiens, antédiluviens, qui aussi, vous prenez l'épopée de Gilgamesh, on raconte aussi le déluge, tout ça, etc. Et donc, dans Mésopotamie aussi, on a des récits, on a aussi des listes de rois antédiluviens. Et alors là, ils vivent 20 000 ou 30 000 ans. Ils sont capables de vivre jusqu'à 20 000 ou 30 000 ans. Vous avez quoi maintenant?
Oui.
D'accord, ok. 5:45, voilà, c'est parfait. Nous avons fini.